Le thème d'aujourd'hui, c'est le baptême, un moyen de grâce dans la communauté. On est le dimanche des rameaux, on se prépare à fêter Pâques dans une semaine. Alors le message n'est pas sur ce jour particulier du dimanche des rameaux, mais finalement, je pense qu'il nous plongera, c'est le cas de le dire, dans ce même message que nous nous préparons à fêter la semaine prochaine. En tout cas, ce message aurait dû être donné il y a déjà plusieurs semaines, mais je n'avais pas pu être présente. Et donc, il s'inscrit dans tous ces messages qu'on a eus sur les moyens de grâce pour notre communauté, ce que nous pouvons vivre ensemble. Tout ce qu'on reçoit comme bénédiction de notre vie, de la part du Seigneur, est immérité. C'est ce qu'on appelle une grâce, une bénédiction imméritée, un cadeau immérité. Notre salut, le fait d'être sauvé. Pourquoi Dieu sauve-t-il des hommes rebelles? Pourquoi? Comment? Non pas en nous demandant de faire quelque chose, mais par son sacrifice à lui. Encore une grâce. L'amour de Dieu pour nous. Une folie, alors qu'une fois qu'on est sauvé, on continue à pécher encore. Quel comble. La fidélité de Dieu à notre égard. Sa patience, alors que nous sommes versatiles, faillibles, peu fiables. Ce que nous explorons depuis plusieurs semaines, ce sont donc ces moyens dont Dieu se sert au sein de notre communion, de l'Église, pour nous bénir davantage. Quand j'ai retravaillé ce thème du baptême, je me suis dit, mais ça a l'air un peu d'une formalité. On se convertit, on se fait baptiser. Qu'est-ce qu'il y a à dire de plus? C'était ma première pensée. Et au fur et à mesure où j'ai retravaillé ce thème, je me suis finalement prêchée à nouveau l'Évangile à moi-même. Et c'est ce que nous allons faire ce matin ensemble. Et vous verrez en quoi ça consiste, se prêcher l'Évangile à soi-même, se rappeler la grâce. Alors que nous vivons dans une région magnifique, on a parfois tendance à regarder par terre, et finalement se prêcher l'Évangile à soi-même, c'est hop, se relever la tête pour regarder la merveille de la nature autour de nous, et en ce qui concerne la grâce, regarder Dieu et tout ce qu'il fait pour nous. Tu peux passer la dia. Jésus, après sa mise à mort et sa résurrection, il s'adresse à ses disciples et il leur dit « J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier. Faites des disciples parmi tous les peuples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, Jésus dit, je suis moi-même avec vous, chaque jour et jusqu'à la fin du monde. L'ordre de Jésus est important. Il confie aux apôtres de continuer l'œuvre qu'il a lui-même instaurée. Faites des disciples. Le disciple dont il est question dans Matthieu, c'est celui qui écoute, qui comprend et qui met en pratique l'enseignement de Christ. Dans ce passage que Jésus dit, dans ce qu'il dit aux disciples, il y a aussi l'ouverture du salut au monde entier. Le salut qui était destiné d'abord au peuple juif est ouvert à tous les peuples. Et enfin, Jésus mentionne le baptême. Un baptême qui se fait en un seul nom, c'est pas en trois noms, c'est un seul nom. Le nom de Dieu qui est à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. Un baptême qui est associé à un apprentissage à l'obéissance à la parole de Dieu, un apprentissage à l'obéissance à l'enseignement de Jésus. Avec à la fin cette promesse qui change tout. Je suis moi-même avec vous chaque jour. Jusqu'à la fin du monde. Le baptême correspond à un ordre de Jésus, oui. Le baptême est pour qui ? pour le disciple, c'est-à-dire pour celui qui choisit Christ, qui accepte le salut, qui écoute, qui comprend, qui met en pratique. Alors voilà les questions que je me suis posées. En quoi le baptême, Eric, tu peux passer la dia suivante, en quoi le baptême est-il un moyen par lequel Dieu nous bénit ? Reçoit-on une bénédiction particulière, supplémentaire, le jour où on se fait baptiser ? Ou est-ce que c'est juste un symbole, une formalité finalement ? Juste un acte symbolique, sans plus. Pourquoi est-ce que Jésus ordonne qu'on se fasse baptiser ? On est sauvé par la foi, le fait de croire. Alors pourquoi faut-il faire quelque chose en plus ? Est-ce que le baptême ajoute quelque chose à notre salut ? Peut-être que vous êtes posé ces questions, moi je me les suis posées. On va essayer d'y répondre, je pense que c'est important. Avant d'aller plus loin, j'aimerais prendre un petit exemple qui est très actuel, avec tous les mariages qui ont eu lieu, certains couples n'ont pu passer qu'à la mairie, avec le minimum de témoins obligatoires. Ils sont passés devant le maire, ça a été inscrit dans les registres. Oui, ils sont mariés, légalement, ils sont mariés. Pourtant, il leur manquait quelque chose quand même à ces mariés. Et l'église, et la fête après. Je me suis dit, finalement, il y a un petit parallèle à faire avec le baptême. On est converti, on accepte le salut, on donne notre confiance à Christ dans notre intimité. Et finalement, on parle ensuite d'un acte public, le baptême. Est-ce que ça ajoute quelque chose ? Ces couples se sont mariés devant le maire. Oh, ils étaient bien mariés, hein. Ils ont reçu leur registre de famille. Tout était en ordre, mais pourtant, l'acte public devant l'église ou avec les amis, avec la famille, est-ce que ça ajoute quelque chose ? Est-ce que de passer à l'église ajoute une bénédiction de Dieu ? Ou est-ce que les couples qui s'étaient mariés juste à la mairie sont moins bénis par Dieu ? Je trouvais qu'on pouvait faire un petit parallèle, alors peut-être qu'on trouvera aussi la réponse à ces questions ce matin. Je vous propose d'aborder le thème du baptême en trois parties. D'abord le passé, ensuite le présent, je vais passer la suivante, et l'avenir. C'est un petit voyage temporel à 360 degrés, et puis j'espère qu'on répondra à toutes nos questions. La première partie, le passé, vous verrez, c'est une partie beaucoup plus longue, puisque c'est là-dedans qu'on trouve toutes la source, finalement, de ce qui est développé ensuite dans le présent et l'avenir. Je vous le dis pour que vous ne soyez pas inquiets en voyant passer l'heure. Et bien, on est toujours à la première partie. Les secondes, troisièmes sont beaucoup plus courtes. Alors, la première partie. Tu peux passer la dia. Le baptême au passé. Coupable, justifié et non pas gracié. Baptiser, ça veut dire plonger, je pense que je ne vous apprends rien, immerger dans l'eau, en tout cas c'est le sens le plus courant de ce terme dans la littérature grecque ancienne, qu'elle soit biblique ou extra-biblique. Nous allons nous appuyer pendant cette prédication sur un texte de Colossiens 2, et on commencera au verset 12 où nous lisons « Vous avez été ensevelis avec le Christ par le baptême ». Le baptême symbolise de manière visible une mort. On est enseveli, on disparaît de la surface, on meurt symboliquement. Mais pourquoi est-ce qu'on meurt ? Parce qu'on a commis des péchés ? C'est vrai, on le sait, même un enfant petit fait rapidement des choses mauvaises. Oui, mais le bébé qui vient de naître, est-ce qu'il a commis des péchés lui-même ? Et puis, en fait, tous les péchés, quand même, n'ont pas le même impact. Entre un meurtre ou voler un petit bonbon à la confiserie, c'est quand même pas pareil, il y a une différence. Alors finalement, est-ce que ce sont nos péchés quotidiens qui nous condamnent à la mort, dont il est question dans Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort ? Pour que le baptême prenne tout son sens, il faut comprendre pourquoi on est coupable, et ensuite, pourquoi on est justifié et non pas gracié. On peut passer la dia suivante. Et la suivante encore. C'est en Adam que nous sommes pécheurs et que nous naissons pécheurs. Voilà pourquoi on est coupable. C'est en Adam qu'on est pécheur. Dans Romains 5, verset 12, nous lisons « Par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort, et ainsi la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. » Le verset 12, il résume en trois étapes l'histoire de l'homme dans ses premiers jours juste après la création et jusqu'à maintenant. Le péché est entré dans le monde par un seul homme, Adam. Deuxièmement, la mort est entrée dans le monde par le péché. Et troisièmement, la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Trois étapes. Péché d'Adam, mort, mort universelle. On a déjà vu cet élément central lorsqu'on a travaillé sur Romains et Romains 5 particulièrement. Adam est la tête de toute la race humaine. Le jour où il a péché, le péché est entré dans notre nouvelle constitution d'homme. Un nouvel élément s'est ajouté, le péché. Et les hommes naissent pécheurs depuis Adam, du fait de leur identification avec Adam. C'est donc notre union avec Adam qui fait que nous sommes coupables. Voilà pourquoi on est coupable. Et c'est indépendant du fait que nous commettions nous-mêmes des actions qui sont pécheresses, qui sont coupables. Pourquoi est-ce qu'on est coupable ? Parce qu'on est unis en Adam, pour notre malheur. Mais cette logique de notre union en Adam, qui nous apporte le malheur, a aussi une réponse dans une logique identique, mais qui, elle, va nous apporter le bonheur. Et c'est notre deuxième pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on est justifié, la dia suivante, et non pas gracié. Avec le Christ et la bonne nouvelle de l'Évangile, on parle beaucoup de la grâce. Une grâce, une faveur imméritée, c'est un vocabulaire qu'on manie très très souvent. Oui, on reçoit tout par grâce, sans le mériter, oui. Mais que signifie le fait de gracier quelqu'un ? On sait tous que le président a la possibilité de gracier des personnes condamnées. Il n'y a pas très longtemps, le président Trump en a fait usage et ça a fait hurler beaucoup, beaucoup de monde. Pourquoi ? Parce que c'est injuste. En fait, le président décide de dire à des coupables qu'ils peuvent sortir. Ils restent coupables, mais ils peuvent sortir. C'est pas grave, tu peux y aller. Et d'une manière tout à fait personnelle, le président choisit de gracier. La définition de la grâce présidentielle, elle s'apparente en droit français à une suppression ou à une réduction de la sanction pénale accordée par le président de la République. La condamnation reste néanmoins inscrite au casier judiciaire de la personne. Voilà ce que c'est que de gracier quelqu'un. C'est très injuste. Et c'est très différent de ce que propose l'Évangile. Dieu ne nous gracie pas. Il ne fait pas sortir des condamnés en leur laissant un casier judiciaire rempli d'actes de crimes ou d'actes mauvais. Et il ne leur dit pas « Oh, c'est pas grave, vous êtes coupable, mais je décide de vous laisser sortir. Vous n'avez pas de compte à rendre à quelqu'un pour vos crimes, ce n'est pas grave. » Non, Dieu nous dit « Vous êtes coupable, il va falloir payer et je vais payer pour vous. » Et subir votre condamnation. Je vais régler cette dette. Elle va être soldée, payée. Vous allez pouvoir sortir de prison parce que vous aurez satisfait la justice par mon acte, par moi. Je vais vous justifier, vous rendre juste par rapport aux exigences de la loi. Dieu ne relâche pas des coupables, il ne les gracie pas, il paye, il les justifie. Il les justifie pour qu'ils soient libres et justes par rapport à la loi. C'est très différent. Alors cette mort, on a vu qu'on était coupable en Adam, justifié en Christ, par la mort de Christ, et cette mort, si elle nous est imputée, n'est pas réellement la nôtre, c'est celle de Jésus. Parce que nous sommes unis en Christ. Dans la suite de Colossiens 2, alors je pense que c'est la dia précédente, j'avais un petit peu d'avance, voilà. Au verset 13 et 14, « Et vous, qui étiez morts à cause de vos fautes, et parce que vous étiez des incirconcis, des païens, Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes, car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il l'a effacé, le clouant sur la croix. Nous sommes ensevelis avec le Christ, c'est en relation avec sa mort que nous sommes baptisés, en relation avec son œuvre et non la nôtre. Alors le baptême parle de culpabilité, oui, la nôtre, du fait de notre union en Adam. Le baptême parle aussi d'un autre fait précis dans le passé, la mort de Christ à la croix, à Golgotha, qui solde notre dette, accomplit notre condamnation du fait de notre union avec Christ. Se faire baptiser, plonger dans l'eau, disparaître de la surface de l'eau et de la terre, c'est reconnaître que je meurs parce que je suis coupable, je mérite la mort, c'est vrai. Mais j'accepte que Christ meure à ma place. Il a payé pour moi il y a 2000 ans sur la croix à Golgotha. Ce passé, s'il est dramatique, il est aussi heureux. Parce que l'Évangile est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Et le message qui s'appuie sur un acte terrible, le sacrifice à la croix, pour Jésus, ne s'arrête pas à cette mort. Dans le passé, on est coupable, on est justifié, et on aborde la deuxième partie. Eric, si tu veux passer la dia suivante, le baptême, un petit peu d'avance, conjugué au présent, la vie en abondance, déculpabilisée. Jésus est ressuscité. Et nous ne restons pas sous la surface de l'eau dans le baptême, heureusement. Nous ressortons de l'eau parce que Christ est ressuscité et qu'il a vaincu la mort. Colossiens le souligne dans ses passages, dans ses versets 12 à 15. Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements, oui. Il l'a effacé, le clouant sur la croix. Christ a gagné la victoire. C'est ce que nous dit Colossiens. Comme un général victorieux d'une bataille, il parade, glorieux, traînant à sa suite l'armée adverse qui est vaincue. Il entre dans la ville en montrant sa victoire et en l'affichant. C'est le triomphe pour Christ. Christ le proclame, non seulement à ses ennemis, mais à son peuple, à nous. J'ai gagné. Cet oppresseur ne pourra plus rien contre toi parce qu'il ne peut plus rien contre moi. Regarde, il est désarmé. Tu n'as plus de crainte à avoir. C'est ma victoire et je t'en fais bénéficier parce que tu es mon peuple. Tu es mon enfant, tu es à moi. Union avec Christ. Alors, quelle vie Christ nous offre-t-il maintenant, dans le présent, sur cette terre? Et qu'est-ce qu'on affirme dans le baptême sur le présent? Est-ce qu'on vit une vie de culpabilité? Une vie marquée par la crainte de pécher à nouveau? Une vie marquée par la peur des conséquences du péché? Parce que c'est vrai, on pêche encore. Est-ce que c'est ça, la vie que nous offre Christ maintenant? Non, pas du tout. Et c'est là à nouveau que l'union en Adam et en Christ est importante. À la croix, Christ a réglé notre statut de coupable en Adam. C'est fini. C'est barré. On était des prisonniers du péché, on attendait notre mise à mort, notre condamnation. Mais union avec Christ, à la croix, le baptême le dit, on est mort en Christ. On a donc payé cette dette par notre union en Christ, mort à la croix, qui a vaincu la mort. Il nous fait bénéficier d'une nouvelle vie. On change de statut, on sort de prison. La condamnation à mort, elle a eu lieu. Elle a eu lieu et on est dégagé de cette pression. Oui, il nous arrive de pécher encore. Mais ces péchés ne nous mènent plus à la condamnation à mort. Parce que notre statut a changé en Adam, en Christ. On appartient au peuple sauvé, purifié, justifié. On est juste. Jamais, jamais, rien ne pourra nous faire revenir en arrière. C'est ce que disent les versets 14 et 15, car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il l'a effacé, le clouant sur la croix. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Ce qui motive notre vie aujourd'hui, maintenant dans le présent, ce n'est plus la crainte de péché. C'est l'amour pour mon Père, pour notre Père. Cet élan pour lui faire plaisir, pour faire comme lui. Alors quand on se fait baptiser, on proclame qu'on a été coupable dans le passé, mais c'est du passé. Parce que dans le passé, Christ a aussi réglé cette dette. Et nous, nous associons à Christ. Et nous l'avons donc réglé en Christ. Nous proclamons aussi que cet acte dans le passé se prolonge dans le présent, par la vie, avec un grand V. La vie avec Christ, une nouvelle vie. Pour notre bonheur, on ne vit pas dans la culpabilité, ça n'aurait aucun sens. Inutile de garder les yeux fixés sur nos péchés, nos manquements, nos erreurs, alors que Dieu, lui, a tourné son regard ailleurs. Il voit Christ qui a payé pour ça. Alors pourquoi continuerions-nous à regarder ce que Dieu a déjà réglé ? Dans le passé, coupable, mais justifié en Christ. Dans le présent, la vie en abondance en Christ. Mais pour quel avenir ? Et c'est notre troisième et dernière partie. Le baptême conjugué au futur, la vie éternelle. On peut passer à la diapositive suivante. À notre conversion, le jour où on accepte notre culpabilité et le cadeau du sacrifice de Christ à notre place, nous devenons enfants de Dieu. Dieu nous adopte comme ses enfants, une nouvelle vie commence. Et tout à l'heure a été lu ce verset de Jean 3, 16, « Celui qui croit a la vie éternelle ». Et c'est ce qui se passe au moment, ce qu'on symbolise au moment du baptême et ce qui se passe au moment de la conversion, une nouvelle vie commence. Le baptême le montre bien. On est vivant, coupable, on meurt avec Christ. On revient à la vie, une nouvelle vie qui démarre. Et cette vie, c'est le début de notre éternité. Elle commence le jour où on se tourne vers Christ et elle est symbolisée dans ce baptême où on ressort de l'eau. Elle ne prendra plus jamais fin. C'est la vie éternelle promise par Dieu qui continuera en sa présence au ciel, en communion parfaite avec Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit. Notre baptême, il est fait dans un seul nom, je l'ai dit tout à l'heure. Un seul nom, Dieu, qui est à la fois notre Père, Dieu le Fils qui a donné sa vie, Dieu le Saint-Esprit qui habite dans tous les croyants. C'est Dieu lui-même, puisque c'est en son nom qu'on fait le baptême, c'est Dieu lui-même qui garantit notre éternité. Il s'engage. C'est lui qui en est le garant. Quelle perspective réjouissante. Quelle vue. C'est là où c'est intéressant de se prêcher l'évangile à soi-même et hop, de relever un petit peu le menton pour voir la vue que nous propose Christ et la bonne nouvelle de l'évangile. L'éternité avec Dieu, notre Sauveur. En conclusion, pour terminer notre réflexion sur le baptême, j'aimerais conclure en répondant aux questions qu'on a posées dans l'introduction. Obéir au commandement de Dieu nous fait du bien. Vous l'aurez certainement remarqué, aimer Dieu, aimer son prochain comme soi-même, ce sont les plus grands commandements, nous dit Jésus. Et nous nous portons mieux, nous nous portons bien en les appliquant. Obéir à Christ, qui ordonne de se faire baptiser si on a cru en lui, cela nous fait aussi du bien, parce que le message qui est proclamé est source de vie. Parce que le baptême, je le crois, n'est pas seulement un symbole, n'est pas une formalité. Il ne représente pas juste le fait de devenir chrétien. Le baptême est lourd de sens. Il raconte une histoire dramatique, merveilleuse, pleine d'espérance. Il est une proclamation de la part de celui qui se fait baptiser. Ce que j'ai vécu en secret, je vous le dis à tous. Dieu est grand, Dieu est bon, gloire à Dieu. Écoutez-le. Le baptême, c'est aussi un rappel pour celui qui se fait baptiser. Il se prêche l'évangile à lui-même, en se rappelant qu'il n'a plus à craindre le péché parce que Christ l'a sauvé, l'a libéré, et que sa vie quotidienne est marquée par le sceau de la justification en Christ. Le baptême, c'est aussi une proclamation de l'engagement de Dieu à notre égard. Dans le passé, avec l'œuvre de Christ à la croix, dans le présent, une vie libre, en abondance et pour l'éternité. Je dirais que le baptême, c'est comme un écho de la crucifixion, un écho de la croix. Christ est mort et ressuscité à notre place il y a 2000 ans. C'est un fait historique. Mais sa mort continue à avoir des échos dans la vie d'hommes et de femmes à la surface de toute la terre et à toutes les périodes de l'histoire. Et tous ces hommes, toutes ces femmes, le manifestent de la même manière par le baptême. C'est un acte qui unit les enfants de Dieu. Dernière dia, le baptême est donc bien plus qu'un symbole. Il se passe quelque chose au moment du baptême, parce qu'on obéit à Christ. Il se passe quelque chose parce qu'on obéit à Christ et que Dieu nous bénit par cette obéissance. On n'est pas plus sauvé quand on se fait baptiser, parce que finalement, je le rappelle, quand on est sauvé, on change de statut. On ne va plus changer de statut. Ça ne va rien ajouter à notre statut. Mais incontestablement, ça ajoute un pas, un jalon à notre vie chrétienne. Peut-être que notre baptême sera un moment difficile pour nous, parce qu'il va falloir affronter la famille, les amis, les oppositions. Mais son message est un baume pour nous, pour nos proches. C'est un cri de victoire, de libération, un message merveilleux à proclamer. En tant qu'enfant de chrétien, je ne sais pas quand je me suis convertie. Ça s'est fait petit à petit. Mais je sais que le jour où je me suis fait baptiser, ce que j'ai confessé avant de me faire plonger sous l'eau, c'est que Christ est mon sauveur, que je crois en lui, que je crois que Dieu m'a promis la vie éternelle dès ce moment et pour l'éternité. J'avais 12 ans. Dans les années qui ont suivi, j'ai parfois douté. Douter d'avoir réellement donné ma vie à Christ. Et j'ai fait partie des enfants qui l'ont donné je ne sais pas combien de fois. Par peur, est-ce que je l'ai vraiment fait ? Ben oui, j'étais dans ma chambre, personne n'était là pour me dire que je l'avais fait. Alors, pas témoin, est-ce que je l'ai fait ? Est-ce que je l'ai fait vraiment complètement ? Est-ce que j'avais tout compris ? Alors, mon baptême, c'est un moment où j'ai obéi à l'ordre de Christ. C'est un moment où on m'a plongé sous l'eau dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est mon repère. Il y avait des témoins quand je me suis fait baptiser. Il y avait la personne qui m'a plongée sous l'eau, avec qui j'avais discuté dans les semaines précédentes, et qui elle-même a affirmé que oui, j'avais fait cet engagement, que j'avais donné ma vie à Christ, et que cette démarche était vraie. Mon baptême a longtemps été la seule date de ma vie chrétienne sur laquelle je pouvais me référer. Un jalon, incontestablement un jalon dans mon engagement avec Christ. C'était pas juste un symbole, c'était bien plus. Un message de bonheur, un acte qui a été une bénédiction. Pour ceux qui ont assisté au baptême, comme pour tous les baptêmes, c'est le cas, on est toujours encouragés. Mais aussi une bénédiction pour moi d'avoir obéi et j'en ai vu les bienfaits dans ma vie. Voilà, que le Seigneur nous bénisse aussi par ce rappel de ce qu'il a fait pour nous à la croix et qu'on commémore et qu'on vit d'une manière toute particulière au moment du baptême.